Bonjour à tous, Lionel Pierrot pour le Forum des Jeunes sur Fadjet et RCF Jéricho. En mai 2007, ça fait bientôt 5 ans, le Grenelle de l'environnement réunissait les forces vives de la nation pour définir une feuille de route en faveur de l'écologie et du développement et de l'aménagement durable. Notre émission ce soir n'a pas vocation à faire un bilan sur l'efficacité des travaux réalisés, encore moins sur les textes législatifs adoptés. J'ai invité 3 jeunes ce soir pour leur permettre de s'exprimer sur leur position sur ce sujet. Sont-ils éco-citoyens ? À l'échelle des nations, qu'est-ce qui les rassure ou à l'inverse, qu'est-ce qui les révolte ? Et puis, dans leur cursus scolaire, envisagent-ils dans ce domaine du développement durable une formation pour un métier futur ? Les jeunes et le développement durable, c'est le thème de l'émission de ce soir. Alors, je vais demander à nos 3 participants de se présenter à tour de rôle. Le premier.
Bonjour, je m'appelle Lucas. Je suis élève donc au lycée Lauritz.
Voilà, tu habites où ?
À Laxou.
À Laxou. Ensuite.
Bonjour, moi c'est Vincent. Je suis aussi élève au lycée Lauritz.
Voilà, vous êtes tous les 3 dans la même classe.
Oui. Et j'habite à Pompey.
À Pompey. Et enfin.
Et moi, c'est Nicolas. J'habite à Rosières-aux-Salines. Et je suis aussi du lycée Lauritz.
Parfait. Alors, ma première question, c'est autour de l'éco-citoyenneté. Une question simple. Est-ce que vous vous sentez éco-citoyen ? On commence par Lucas. Est-ce que tu penses être un éco-citoyen ?
Oui, je fais tous les jours. Je pense faire ce qui doit être fait pour être un éco-citoyen.
Alors, être éco-citoyen, c'est des activités ou des actions dans la vie de tous les jours. Vincent, même question, pourquoi tu te sens éco-citoyen ? Est-ce que c'est le cas d'ailleurs ?
Oui, plus ou moins. Par exemple, je prends les transports en commun, très rarement la voiture pour aller au lycée.
Ouais, donc ça, c'est un premier point.
Voilà, oui. On récupère l'eau aussi pour le jardin l'été, pour par exemple aussi les restrictions d'eau.
Ouais. C'est une volonté de la famille ou alors c'est toi qui impulses le mouvement autour de ces gestes éco-citoyens ?
La famille, plutôt, ouais.
Ouais, donc finalement, tu baignes dans un environnement qui est plutôt favorable.
Assez, ouais.
Et Nicolas ?
Moi, moyennement, parce que, comment dire, on trie les déchets. Par exemple, on programme les machines à laver et le lave-vaisselle de façon écologique.
Oui.
Mais... on a tendance des fois à laisser les lumières allumées, ou, etc., les appareils ménagers.
Ouais. Alors pourquoi le fait de programmer le lave-vaisselle ou le lave-linge, pourquoi c'est un geste éco-citoyen de faire cette programmation ? Est-ce qu'on peut avoir une explication technique ? Qui peut répondre ? Nicolas ne sait pas, il sait qu'il faut le faire, mais il ne sait pas pourquoi.
Bon, bah moi je vais expliquer.
Alors c'est Lucas qui explique.
Voilà, parce qu'en fait, suivant les consommations quotidiennes d'énergie, on peut le voir avec différents outils comme la courbe des charges sur le site directement du réseau de transport d'électricité.
Ouais, alors ça c'est vraiment très technique, oui.
Ouais, c'est très technique. Donc on peut voir par exemple qu'à 18h, on a le boom de consommation.
Alors les fameux pics de consommation.
Pics de consommation dû au fait des personnes qui rentrent et qui allument leur cuisine pour pouvoir faire leur repas. Et donc ces pics de consommation, on essaye de les atténuer. Par exemple en programmant la machine à laver, la vaisselle, etc., en fonction des heures où il n'y a pas de pic, mais plutôt des creux de consommation, afin d'équilibrer cette courbe.
D'accord, donc pour consommer l'énergie au moment dans la journée où la consommation est moindre, pour atténuer les surconsommations à certains moments de la journée. Puisque vous savez tous que l'énergie électrique, on ne peut pas la stocker, donc on doit produire l'énergie électrique en quantité au moment même où on en a besoin.
Tout à fait.
Ouais. Et Lucas, comment on peut savoir à quel moment il vaut mieux consommer et à quel moment il vaut mieux ne pas consommer l'énergie électrique ?
Alors moi, j'ai sur mon petit téléphone d'une marque à la pomme,
oui,
la petite application Ecodomix de RTE, et qui permet avec ça de pouvoir voir la consommation en temps réel de la France, même un certain historique, et de pouvoir même voir les filiales telles que le nucléaire, l'hydraulique ou même les énergies fossiles. Ça permet de pouvoir se réguler, quoi.
Alors je résume, donc Lucas, toi tu as sur ton smartphone, on va dire, une application que tu as téléchargée,
Gratuitement.
Ah, gratuitement, donc tu n'as pas payé. Et sur cette application, tu sais en temps réel quelle est la consommation du pays. Mm-hmm. Et donc, tu peux, par rapport à des références, tu peux savoir si cette consommation, elle est faible ou importante.
Ou forte, oui, par rapport aux différents moments de la journée.
Mm-hmm. Et en plus, tu sais que cette énergie, tu peux savoir d'où elle provient.
Voilà, tout à fait.
Ouais, un petit résumé, en général, ça provient
de en 80% de nucléaire, hein, on peut résumer en 12-15% d'hydraulique, où ça dépend des différents moments de la journée et de la production. Par exemple, on sait que les énergies fossiles, lors des précédents booms, enfin, précédents pics de consommation cet hiver, les moyens de production fossile ont été activés.
Ouais, c'est-à-dire on active les centrales thermiques, fuel, charbon, gaz, mm-hmm. pour augmenter la production d'énergie.
Voilà, pour répondre, pour équilibrer l'offre et la demande.
Donc être éco-citoyen, pour vous, enfin en tout cas pour Lucas, c'est entre autres se préoccuper de d'où vient notre énergie électrique et se préoccuper de limiter la consommation d'énergie électrique. Y a-t-il pour Vincent et Nicolas d'autres efforts à réaliser pour être un bon éco-citoyen, un bon éco-citoyen ? Non, rien d'autre.
Par exemple, pour l'alimentation, vaut mieux prendre des fruits de saison et pour éviter l'exportation qui consomme beaucoup d'énergie.
Ouais, les transports, voilà, entre autres. Mmh. Mmh. Bien. Est-ce que vous avez constaté, soit dans votre famille, soit autour de vous, dans vos amis, des comportements qui vous surprennent, qui vous choquent, comportements pour lesquels vous voudriez intervenir, vous n'osez pas, peut-être par timidité ou par respect des actions de chacun. Il y a des choses qui vous choquent dans ce que vous voyez ?
J'ai des membres de ma famille qui travaillent à deux rues, dans un petit bureau, et qui prennent la voiture tous les matins pour y aller.
Ouais.
Ça me choque un peu. Et aussi de la traditionnelle lampe de bureau ou lampe de chevet qui reste allumée toute une journée, alors que finalement, on ne l'utilise pas.
Mmh. Alors un argument, je rappelle que c'est sur le site de l'ADEME. On rappelle que pour parcourir jusqu'à 5 km en ville, quand on prend son vélo, c'est le mode de transport le plus rapide. C'est un argument que tu pourras donner aux gens auxquels tu faisais référence là. Ouais. Il y a quelques jours, quelques semaines, en préparant cette émission, je vous avais proposé de faire un test sur mon empreinte écologique. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Je commence par Nicolas. La première question, c'est qu'est-ce que c'est ce site et en tout cas ce test de l'empreinte écologique ?
En gros, ça nous pose des questions sur notre façon d'agir dans la journée.
Oui.
Pour voir si on est plus ou moins écologique. Ouais. Comme le repas, si on mange de la viande deux fois par jour, une fois par jour, du poisson. Si on prend des transports en commun.
Oui, si on habite. Quel type d'habitation ? Voilà. Entre un appartement, une maison, une petite, grande maison, etc. Et tout ça, donc, c'est pris en compte. Mm. Et le fait de répondre aux questions, ça permet premièrement de constater quels sont les points sur lesquels il faut agir pour être éco-citoyen ou pas. Et il y a des domaines qui concernaient les questions. Qui t'ont surpris, des questions posées pour savoir si tu étais éco-citoyen dans des domaines qui...
Surtout pour la viande.
Oui. Ouais.
On en mange souvent deux fois par jour.
Uh-huh.
Et ce qui m'a surpris, c'est que dans le test, il faut en manger une fois par jour, une fois par journée, donc soit le midi, soit le soir. Et ça m'a surpris.
Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avouer les résultats ? Et puis, comment sont annoncés les résultats, Vincent ?
Alors, ils sont annoncés sous forme de planètes.
Alors expliquons voir, sous forme de planètes. Par exemple, tu peux dire combien de planètes tu représentes, toi ?
1,8.
Alors, 1,8 planètes pour Vincent. On peut avouer pour Lucas ?
2,9.
Et 2,8, moi.
2,8 pour Nicolas. Alors, qu'est-ce que ça signifie, par exemple, Vincent a 1,8 planètes ?
Ça veut dire que si tous les habitants de la planète actuelle faisaient comme moi, il faudrait 1,8 planètes pour continuer de vivre...
Ouais, pour survenir aux besoins de l'ensemble des habitants des terriens.
Oui.
Ouais. Et alors finalement, la moyenne nationale, je ne sais pas si vous la connaissez.
Non.
On est, je crois, au-dessus de deux planètes pour la moyenne des Français. Et alors finalement, comment faisons-nous pour continuer à vivre sur cette planète, puisque nous ne disposons pas de deux planètes?
Les pays moins développés, eux, consomment, ont moins d'une planète. Donc ça permet d'avoir une équilibre.
Un équilibre. Équilibre. Ouais. Bien sûr, il faut savoir que le jour où les pays en voie de développement augmenteront leur consommation, cet équilibre risquerait d'être rompu. Mmh. Tout à fait. Alors ça, c'était la partie qui concernait votre action, vos modes de déplacement, vos modes de vie. Une deuxième partie avec des questions qui concernent cette fois-ci ce qu'on observe au niveau de la nation, peut-être au niveau de la mondialisation. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous constatez qui vous rassure au niveau du développement durable? Et puis à l'inverse, s'il y a des choses que vous constatez, des décisions politiques peut-être, qui vous choquent, qui vous surprennent et qui, vous le pensez, ne vont pas dans le bon sens. Qui est-ce qui veut répondre à cette grande question? Lucas?
D'accord. Moi, ce qui me rassure le plus, c'est de voir que aujourd'hui des petits groupes, alors moi je parle des groupes pacifiques, qui se réunissent afin de pouvoir, dans toutes les nations, hein, je pense que c'est international, qui permet de pouvoir faire en sorte que nos villes consomment moins d'énergie. Alors je vais prendre un tout petit exemple. Le clan du néon, donc qui sont des personnes qui se réunissent et qui font ça la nuit, qui agissent vers minuit, 2 ou 3 heures du matin, à l'heure où finalement c'est le moins utile, et qui viennent éteindre les enseignes publicitaires, qui, c'est vrai, ne servent pas à grand-chose à cette heure-là,
oui.
Et qui permet franchement de... Si les commerçants demain faisaient ce geste d'éteindre leurs enseignes durant la nuit, on pourrait nettement baisser la consommation d'énergie dans les villes. On nous parle souvent des appareils qui restent en veille et qui consomment beaucoup d'énergie, alors que franchement, les néons, c'est hallucinant. Puis, d'une part, on a des baisses d'énergie, et d'autre part, on a aussi une pollution visuelle qui est nettement diminuée.
Mmh. Alors, tu te retrouves dans cette... c'est une association, c'est un groupement.
C'est un regroupement, oui.
Mais ne s'agit-il pas là d'actes de malveillance, d'intervenir comme ça chez des commerçants?
Je n'attribue pas ça à la malveillance, du fait que le commerçant, lui, le matin, en rentrant sa boutique, a juste à relever l'interrupteur afin que son enseigne remarche. Donc on a d'autres exemples de malveillance, mais je pense que ça reste encore pacifique.
C'est-à-dire sur ces actions qui visent à éteindre les lumières des villes, s'effectue sans dommage sur le matériel.
Sans dommage, juste baisser le disjoncteur.
Mais il est accessible, ce disjoncteur?
Disons que normalement il est prévu pour les pompiers, donc il est parfaitement accessible avec juste un balai,
une perche,
vous pouvez l'éteindre relativement facilement.
Mmh. D'autres questions d'ordre peut-être plus général. On est en campagne électorale pour la présidentielle. Plusieurs candidats qui sont en bonne position pour l'emporter basent leur modèle économique sur la croissance. Qu'est-ce que vous avez un avis sur cette question-là? Est-ce que ça vous semble normal de bâtir le redressement du pays sur la croissance, c'est-à-dire consommer plus pour produire davantage, pour créer des emplois? Alors Vincent, est-ce que tu peux t'attaquer à cette lourde question?
L'économie en elle-même, de toute façon, n'est pas vraiment fondée sur le développement durable, parce que le développement durable, ça coûte assez cher quand même.
Par exemple, c'est plus cher de construire un bâtiment basse consommation que de construire un bâtiment, j'allais dire traditionnel, qui serait moins isolé.
Voilà.
Après, il faut voir à long terme. Hein. La consommation d'un bâtiment plus isolé sera forcément... La consommation en chauffage sera forcément plus basse. Donc oui, sur le coup, c'est vrai que ça consomme.
Il faut voir l'investissement sur l'avenir.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Alors Vincent, pour revenir à cette économie basée sur la croissance, est-ce que c'est pour toi une solution d'avenir que de produire davantage pour consommer davantage, pour donner des emplois? Est-ce que produire plus, c'est pas aussi polluer plus?
Oui, oui et non. Enfin, un produit qui en, un pays qui est en développement, il va forcément consommer plus sans contrôler ce qui, les effets de CO2, tout ça, tout ce qui sa consommation. Et une fois qu'un pays est bien développé, il va pouvoir faire attention. Ça va être un de ses soucis qui n'était pas prioritaire lors de son développement.
Oui, Lucas, tu as des éléments à... Non, pas d'éléments à ajouter.
Bah, on pourrait ajouter que on peut, croissance pourrait rimer dans un avenir avec développement durable. Après, est-ce que le développement durable... Je pense que, c'est un avis, on voit que Eva Joly fait moins de 5%. Dans les sondages, fait actuellement moins de 5% en vue de la prochaine élection.
Oui.
Est-ce que ça voudrait dire que les Français pensent, à juste titre ou non, ce n'est pas à moi de juger, que l'écologie est, n'est pas, donc, dans ce cas, une priorité pour la nation.
Mmh. Ouais.
Donc oui, dans le futur, je pense que l'écologie va devenir une priorité pour la nation. Actuellement, est-ce qu'elle l'est? Je ne pense pas.
Oui. En tout cas, Vincent, ce que tu voulais dire juste avant, c'est que dans les pays développés comme en France, on peut produire davantage parce que une de nos priorités, un des objectifs des entreprises, c'est justement produire en respectant l'environnement, en utilisant moins d'énergie, en préservant les ressources.
Donc oui. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
C'est un côté plutôt positif.
Oui.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. On a choisi d'écouter Mickey 3D, qui est plutôt pessimiste. Il dépeint l'histoire de l'être humain et comme il le chante, comme on va l'écouter, c'est pas joli joli.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Le Forum des Jeunes sur Fadjet et RCF Jéricho avec ce soir une émission autour du thème des jeunes et du développement durable. J'ai invité Nicolas, Vincent et Lucas pour évoquer avec eux leur engagement autour du développement durable. On vient d'écouter Mickey 3D avec une vision assez pessimiste de l'histoire de l'être humain. D'ailleurs, Lucas n'était pas trop d'accord sur ce qu'on a entendu, sur les paroles.
Bah, je trouve que c'est une très mauvaise, très image noire de l'homme, avec donc cette phrase que je trouve choquante, c'est « Tu te souviens, à l'époque, il devait y avoir des animaux dans la forêt. »
Oui.
Ça. Et moi, je laisse quand même, je veux le dire, n'oublions pas que l'être humain en soi sauvait aussi des espèces de leur extinction. Donc, oui, on a aussi notre importance, on a aussi une importance très mauvaise, on va le dire, sur la Terre, etc. Mais on a aussi fait des actes
qui permettent d'être optimistes.
Tout à fait.
Mais quand Mickey 3D il dit on a commencé à polluer le désert, ça vous fait pas penser à, je ne sais pas moi, aux catastrophes? Je pense à Fukushima, à nos réacteurs nucléaires en France. Vous n'avez pas cette crainte, justement de la catastrophe qui est possible, de cette pollution dont on ne saura pas, qu'on ne sait pas maîtriser?
Si, c'est clair qu'on est sur un danger. Mais est-ce que c'est une raison? Donc là, je prends l'exemple de l'Allemagne qui veut sortir du nucléaire civil. Est-ce que c'est pas un peu de l'arnaque? Voilà, moi je dis ça parce que l'Allemagne ne pouvant plus vendre de l'énergie à la France,
oui,
elle va aussi nous en acheter. N'oublions pas que notre énergie est produite à 80% du nucléaire. Ça
oui.
voudrait dire que l'Allemagne nous dit d'accord pour le nucléaire, mais pas chez nous.
Oui.
Et
oui.
ça me choque, je suis désolé.
Sur l'énergie nucléaire, Vincent, quelle est ta position? Est-ce qu'il faut en sortir? Est-ce que...
Pour l'instant, je pense que c'est totalement impossible, étant donné la consommation d'électricité très forte, et notamment en froid, comme ces derniers mois.
Oui, pendant les périodes de froid. Ouais.
Et par exemple, si l'Allemagne aussi nous achète de l'électricité, ça a pu être possible. Donc il va falloir couper des régions ou des trucs comme ça.
Oui. Alors ça me permet de rebondir, ou en tout cas d'aborder la dernière partie de cette émission sur les formations, les parcours scolaires. Vous êtes en classe de seconde. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la suite de votre parcours? Est-ce que vous connaissez les filières liées, entre autres, aux énergies renouvelables et plus généralement au développement durable? Alors, on commence par Nicolas.
Oui, il y a les premières STI2D.
Ouais, STI2D, ça veut dire science et technologie de l'industrie et du développement durable. Mmh. Mmh. Alors, c'est dans ce domaine-là que tu veux t'orienter?
Oui, plus vers un SIN.
Alors, SIN, ça veut dire système d'informatique et numérique.
Voilà, tout à fait. Mmh.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire en SIN? Je sais pas, quels sont...
Je vais plus me tourner vers le numérique sur le développement durable.
Oui, uh-huh. Et alors ça c'est pour Nicolas. Vincent, est-ce que dans ce domaine-là, tu as déjà fait un choix ou est-ce que pas encore?
Pour l'instant, je me dirige vers un bac S normal, mais je ne sais pas vraiment après dans quel secteur, dans quel métier m'orienter. Mais de toute façon, dans tous les secteurs, je pense qu'il y a plus ou moins de développement durable.
Mmh. Alors pourquoi il y aurait, d'après toi, plus ou moins du développement durable dans tous les secteurs?
Maintenant, en ce moment, dans tous les secteurs, on entend parler de développement durable, que ce soit dans le commerce, dans
les services.
Tourisme, les services, oui.
Le tourisme,
mmh.
Ouais, l'industrie, forcément.
Oui.
la recherche, ouais, autour de l'économie d'énergie, des ressources naturelles qu'il faut préserver, que ça soit pour l'eau, pour l'utilisation de la biomasse. Là, on peut être dans le domaine de la chimie. Effectivement, les débouchés sont nombreux. Et puis, Lucas ?
Alors moi, je voudrais... Je suis un peu plus à long terme que vous, parce que moi, je veux directement... Enfin, pas directement, je voudrais faire une école d'ingénieur pour ensuite m'orienter vers les nouvelles productions d'énergie électrique.
Oui.
Et donc, Vincent avait totalement raison quand il disait qu'aujourd'hui, le développement durable est omnipotent, du sens où vous ne pouvez pas aller dans une entreprise où il n'y a pas spécialement des personnes qui travaillent sur comment faire une réduction de déchets, comment faire une réduction d'énergie, non pas à cause d'un coût d'argent énorme,
ouais,
mais surtout du fait que c'est une obligation pour une entreprise de remplir certaines normes. Hein.
Par exemple, la norme ISO 14001, hein, oui, pour les connaisseurs, qui est la norme environnementale de l'entreprise, pour qu'elle limite ses déchets, pour qu'elle limite son impact sur l'environnement au niveau de l'air et de l'eau. Hein. Donc tu voulais dire par là que quel que soit le secteur dans lequel on se dirige, une entreprise peut s'engager en respectant des normes, donc être concernée par
de plus, l'environnement. Si elle le fait pas, elle peut avoir des problèmes judiciaires derrière. Mmh. Donc oui, chaque entreprise, forcément, vous allez dans une entreprise, vous aurez forcément à un moment, le sujet de développement durable forcément reviendra.
D'accord. Ouais. Bien, je pense que nous allons pouvoir conclure. Hein. Je vais vous remercier pour votre témoignage. Et puis, en guise de conclusion, j'invite tous ceux qui nous écoutent, s'ils se sentent concernés par le contexte du développement durable, à poursuivre cette réflexion en se rendant sur des sites, par exemple celui de l'ADEME, où on peut trouver des guides d'achat pour bien consommer, on peut trouver une calculette éco-déplacement. Il y a le site aussi du WWF dont on a parlé avec ce test sur l'empreinte écologique, et puis des sites qui concernent plutôt les lycéens, le site de l'ONICEP par exemple, où vous trouverez des filières de formation, les métiers qu'on appelle les métiers de la croissance verte, avec par exemple le nouveau bac technologique dont on a parlé avec Nicolas, STI 2D autour des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Et puis à nouveau merci, je vous invite à prendre rendez-vous dans 7-8 ans quand vous serez ingénieur, et puis nous pourrons découvrir vers quels horizons vous a conduit votre engagement et également vos convictions autour du développement durable. Au revoir.
Merci.